Radio Cactus,
la radio des jeunes.
Ez a Rádió 1.
C'est la radio de
Benyon.
Radio Cactus.
Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Cactus avec Eléa et
Anaïs.
On est le 22 mars et c'est 11h. Aujourd'hui, on va recevoir
Esteban et Daniel vont nous faire un micro-trottoir, pardon.
Noémie et Léa qui vont aussi nous faire un micro-trottoir.
Anthony et Lucas qui sont allés faire une interview.
Tessa et Lio qui vont nous faire un micro-trottoir.
Et pour finir, Sam et Oscar qui vont faire une chronique.
Maintenant, on écoute Because I Love You de Stevie B.
Show you that
Salut les mecs.
Salut Annie.
Salut.
Bon du coup aujourd'hui on a fait un micro trottoir sur des sondages des années 90 et on a eu une petite complication parce qu'au début on n'arrivait pas à trouver des personnes parce qu'ils n'avaient jamais le temps. Tout le monde, c'est Esteban sur la radio Cactus. Aujourd'hui on va faire une émission sur plutôt ça ou plutôt ça.
Ok, alors vous préférez les trois frères ou les urgences?
Trois frères.
Game Boy ou PlayStation?
Game Boy.
Baggy ou Crix?
Baggy.
Cortez ou Doc Martens?
Doc Martens.
Michael Jackson ou MC Hammer?
Michael Jackson. Okay.
Les trois frères ou Urgence?
Plutôt Urgence.
Vous êtes plus pour Game Boy ou PlayStation?
Game Boy pour des souvenirs d'enfance.
Okay. Vous préférez Baggy ou Crix?
Plutôt Crix.
Cortez ou Doc Martens?
Dr. Martens. Enfin, Doc Martens, évidemment, des Docs.
Michael Jackson ou MC Hammer?
Michael Jackson pour la danse qu'il fait.
Michael Jackson ou MC Hammer?
Michael Jackson.
On remercie les personnes pour le temps qu'ils nous ont accordé. C'était Esteban et Daniel sur Radio Cactus.
Merci beaucoup les gars. Alors, j'ai quelques petites questions. Est-ce que la dame, elle vous a bien accueilli?
Laquelle?
Toutes les personnes qui vous avez interviewé.
Quand on a interrogé le secrétariat, le secrétaire, genre il a dit ouais merci Monsieur Détra pour nous parce qu'il nous avait dit de aller l'interviewer.
D'accord. Et puis maintenant on va écouter.
Wannabe de Spice Girl. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want.
We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V who doesn't come for free. She's a real lady. And as for me, you'll see. Slam your body down and whine it all around. Slam your body down and whine it all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's
Salut les filles.
Salut.
Ça va?
Bien et toi?
Ouais, j'ai une question. Comment se passait votre interview?
Très bien, il faisait très chaud et beau. Ouais, mais à part quelques soucis, comme par exemple les râteaux qu'on a reçus, on passait devant eux, enfin on leur disait bonjour et ils partaient direct ou des trucs comme ça. Mais bon, quand même, on a quand même trouvé des personnes, donc on
est fiers.
On est fiers, quoi. Enfin, on est contents, quoi. Parce que bon, on a quand même eu plusieurs râteaux, on va dire peut-être une dizaine, donc on est assez contents. Donc maintenant, on va lancer l'interview.
Bonjour, alors quelle était votre pire punition à l'école?
Alors, d'après mes souvenirs, la pire des punitions a été quand ma maîtresse m'a mis au coin devant tout le monde. Voilà.
D'accord, mais ça s'est vraiment passé comment pour que vous ayez au coin?
Alors, je m'en souviens plus vraiment. Je pense que j'avais dû trop bavarder avec une de mes copines.
D'accord.
Et puis, elle m'a mis au coin et je me suis sentie assez humiliée. Voilà.
Ok, merci beaucoup.
De rien.
Bonjour.
Bonjour.
Je voulais vous poser une question. Quelle a été votre pire punition à l'école?
Ma pire punition, ça a été qu'enfant, je tenais le stylo, le crayon de la main gauche. Et à l'école, à l'époque, ils n'aimaient pas beaucoup. C'était encore pas autant desservi pour les gauchers. Donc, je me faisais taper sur les doigts avec une règle ou autre ustensile pour que je tienne la main droite. Donc, voilà.
Et du coup, maintenant, vous tenez de la main droite?
Et du coup, maintenant, je suis droitière. J'ai plus de force de la main gauche, mais je suis droitière. Donc, voilà. Après, ça m'est compliqué d'écrire de la main gauche, mais j'y arrive. Si vraiment je le veux, j'y arrive.
Ok, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Bonjour monsieur, quelle était votre pire punition à l'école?
Bonjour, alors ma pire punition, enfin c'était pas une punition extrême, mais quand même, c'était un lundi matin, notre professeur nous avait demandé de faire des devoirs, plusieurs d'entre nous ne l'avaient pas fait, et comme c'était un professeur qui était très strict et qui avait un passé militaire, il n'avait pas trop apprécié la chose, alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est un peu énervé et il est passé auprès de chacun des élèves en nous saisissant par la nuque assez fortement, en nous mettant le visage sur le cahier des devoirs et il a fait ça auprès de chaque élève. Et pour la petite histoire, la pauvre qui était la première de la classe qui avait fait ses devoirs, elle était au premier pupitre. Donc c'est elle qui a reçu le plus, mais voilà, donc ça c'était une punition assez sévère.
Ah ouais, d'accord, ça a dû faire mal en tout cas. Hein.
C'était désagréable.
Ok, d'accord. Bon, merci monsieur, au revoir.
Au revoir.
Bonjour monsieur, alors quelle était votre pire punition à l'école?
Oh là, la pire punition, c'était dans l'école secondaire. Et j'avais 13 ans, je pense. Et puis, on s'est bagarré avec un autre garçon. Et puis, le directeur de l'école nous a vus et nous a fait monter dans son bureau en douze pliés sur une chaise et nous a fouetté avec un bâton en bambou. Et ça fait mal, hein. On n'a pas pu s'asseoir après.
Vous m'étonnez, hein. Bon, merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Bonjour. Quelle a été votre pire punition quand vous étiez à l'école?
Alors, pire punition, je ne sais pas, mais j'ai été privé une fois de boum en... Ça ferait en 7e année pour vous, parce que j'avais abîmé les dents d'un de mes camarades. Du coup, je n'ai pas pu aller. J'étais dans la salle d'à côté en train de faire des exercices d'histoire.
Ok, merci. Au revoir.
Merci à vous.
Merci à tous de nous avoir écoutés, c'était Noémie et Elias.
Bon voilà, vous avez quelque chose à dire?
Merci encore de nous avoir écoutés, on espère que notre interview vous a plu.
Ouais, j'espère aussi.
Et maintenant, on écoute Gypsy Woman de Crystal Water.
Bye bye!
just like you and me. But she's homeless, she's homeless. As she stands there singing for money, la la dee.
Radio Cactus, la radio qui vous plante.
Coucou les gars, ça va ?
Et toi ?
Oui. Alors, comment ça s'est passé votre interview ?
Ben bien, moi, mon coach, il m'a bien accueilli dans le vestiaire des coachs. Et puis voilà.
Puis le mien aussi, d'ailleurs.
D'accord, et maintenant, on va écouter votre interview.
Bonjour, c'est Lucas et Anthony sur Radio Cactus. Nous sommes actuellement dans l'école de Beugnin et nous avons interviewé nos coachs sportifs de foot et de tennis. Pour commencer, nous leur avons demandé comment était leur sport pendant les années 90.
Comment était le foot pendant les années 90 ?
Alors écoute, dans les années 90, le foot c'était déjà un jeu très intéressant, alors un peu moins rapide que maintenant, mais c'était un jeu technique et déjà tactique. Si je parle de la technique, il y avait vraiment des joueurs qui faisaient la différence, on en parlera peut-être tout à l'heure, Par contre, c'est vrai qu'au niveau de tout ce qu'on appelle transition, c'est-à-dire quand on récupère le ballon, quand on perd le ballon, et d'un point de vue athlétique, d'un point de vue physique, ça allait peut-être moins vite que maintenant, assurément moins vite. Puis il y avait des joueurs qui avaient vraiment des profils de défenseurs, pas trop techniques, difficulté à la relance, mais qui étaient très très forts sur l'homme. Et puis on avait un profil de numéro 10 créateur, un profil de milieu défensif, numéro 6, et puis des joueurs offensifs assez puissants, assez rapides. Et puis au niveau de la tactique, on avait la tactique qui était souvent en place, c'était une tactique en jouant à 5 derrière, 3 au milieu et puis 2 devant. Et puis ça pouvait des fois se transformer en 3-5-2 aussi. Par exemple, Marseille, quand ils ont gagné la Champions League, ils avaient une espèce d'organisation tactique qui passait du 3-5-2 au 5-3-2. Quelque chose d'assez intéressant.
Okay. Le foot a beaucoup changé entre les années 90 et maintenant ?
Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, en particulier, comme je l'ai dit avant, la rapidité, la vitesse de jeu. Aujourd'hui, le footballeur, c'est un athlète complet. Avant, on ne développait pas suffisamment, en tout cas pas la même chose, le physique du footballeur. Si on regarde aujourd'hui un Cristiano Ronaldo, c'est vraiment un athlète complet au niveau détente verticale, au niveau vitesse, aussi au niveau... on va dire quoi, solidité, musculature, c'est vraiment quelqu'un de solide. Je pense qu'il serait très bon dans beaucoup de sports, dans plein de sports différents. Et peut-être qu'à cette époque-là, on était un peu moins pointu dans la préparation des joueurs. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé. Donc du coup, ça permet un jeu actuellement beaucoup plus rapide que ce qu'on proposait dans les années 90. Puis on essaye aussi... il y a deux choses qui ont changé. On essaye maintenant peut-être d'avoir un jeu plus vertical, on va plus vite vers le goal adverse, et puis avant peut-être qu'on prenait un petit peu plus de temps dans la construction. Puis je dis ça, puis d'un autre côté, si on pense au Barcelone de Guardiola, c'était aussi une équipe qui conservait le ballon, qui n'était pas spécialement rapide pour aller en direction de l'avant. Enfin, c'était différent. Et puis, il y a une autre chose aussi que je remarquerai par rapport aux années 90 qui a bien changé par rapport à maintenant. Dans les années 90, on avait encore des joueurs. Par exemple, je pense à deux joueurs de l'AC Milan, Baresi et Maldini. Peut-être que vous, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais c'est des joueurs... qui ont fait tout leur junior au Milan AC, puis qui ont fait toute leur carrière au Milan AC. Et ils n'ont jamais changé de club de toute leur carrière. Donc ils ont aussi peut-être rentré au club à 8 ans, puis ils ont fini leur carrière, j'en sais rien, à 35. C'est des joueurs qui ont joué longtemps. Ils n'ont jamais connu un autre club. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, avec les transferts et tout, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup qui font toute leur carrière dans un club. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé aussi.
Il y avait des joueurs qui faisaient la différence, qu'on voyait qu'ils étaient beaucoup plus forts.
Oui, alors effectivement, mais ça c'est un petit peu toujours le cas. Pour chaque équipe qui a eu du succès, il y a des joueurs qui sortent du lot. Et puis souvent, c'est des numéros 10. Je pense par exemple, alors tout au début des années 90, Maradona avec l'équipe d'Argentine et puis avec l'équipe de Naples qui a eu beaucoup de succès. Numéro 10 qui était un créateur au niveau du jeu puis un finisseur. Je pense à Baggio aussi par rapport à l'équipe d'Italie. Je pense bien sûr à Zidane avec l'équipe de France et puis avec la Juve à cette époque-là. Il faut parler aussi, mais alors c'est pas un 10, il faut parler aussi de Ronaldo, mais pas Cristiano Ronaldo, le Ronaldo brésilien de l'époque, qui était alors lui un attaquant surpuissant, très rapide, avec un esprit de finisseur vraiment très intéressant. Et puis je pense aussi à un autre numéro 9 de l'équipe d'Allemagne, Klinsmann, peut-être que vous connaissez peut-être un petit peu, j'en sais rien. Et puis quand même un joueur des années 90 qui a permis quand même, qui faisait partie de l'épopée de Marseille, qui est la première équipe française, enfin il n'y en a pas eu d'autres depuis, qui a gagné la Champions League en 93, qui était le capitaine, pas un numéro 10, un numéro 6, plutôt un milieu défensif. Donc, qui a gagné en 93 avec Marseille la Champions League, et puis en 98, capitaine également de l'équipe de France, et puis qui a gagné le mondial, le premier mondial de l'équipe de France. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et c'est un numéro 6. pas forcément un joueur extraordinaire qui faisait rêver par rapport à sa technique, à sa finition, mais un joueur par contre avec un mental au-dessus de la moyenne, quoi. Et puis un meneur d'hommes. Et on a peut-être retrouvé ces qualités-là après en tant que sélectionneur de l'équipe de France et avec le succès 20 ans après. Voilà. Puis je peux peut-être parler encore d'un entraîneur. Puis il y a d'autres joueurs aussi hein, qui ont été intéressants, mais peut-être pas forcément numéro 10 et numéro 9. On peut relever peut-être Barthès comme gardien de l'équipe nationale française, des Laurent Blanc, des Desailly. Il y en a beaucoup encore.
Ok. Merci beaucoup.
C'est rien. Pas de problème. J'aurais voulu pas.
Et est-ce qu'il s'est passé des choses intéressantes en Suisse pendant les années 90?
Alors, dans les années 90, ouais, c'était intéressant parce que, par exemple, en 96, l'équipe de Suisse, elle s'est qualifiée et puis elle a fait un très très bon parcours à l'Euro, au Mondial qui était aux États-Unis. Et puis, on a quand même eu en 97 le premier Suisse qui a gagné la Champions League, qui s'appelle Stéphane Chapuisat, qui jouait à Dortmund, qui était le centre-avant numéro 9, qui jouait légèrement sur le côté gauche. Et puis qui était vraiment la star de l'équipe. J'ai eu la chance quand je jouais au foot d'aller regarder un match, pas de Champions League mais de championnat. Et puis il faut imaginer, c'était l'équipe top de l'Allemagne. Et puis quand on arrivait dans la ville de Dortmund, il n'y avait que des supporters avec le maillot de Dortmund jaune avec le numéro 9 Chapuisat derrière. On l'appelait Chapi, puis sa réputation c'était... En allemand, je ne sais plus comment ça se disait, mais on disait de lui que c'était le mec qui était capable de dribbler dans une cabine téléphonique, donc dans un espace très très réduit. Et puis c'est vrai que c'était un joueur très intéressant. Et puis il avait comme entraîneur Otmar Hitzfeld, qui a été après l'entraîneur de l'équipe de Suisse dans les années, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 6-7 ans, quelque chose comme ça. Voilà pour la Suisse.
Ok, merci.
Service.
Bonjour, c'est Lucas sur Radio Cactus. Je suis actuellement chez ma de tennis, puis je vais l'interviewer. Et comme question, enfin, la première question, ça sera qu'est-ce qui a changé entre les années 1980 et les années d'aujourd'hui ?
Bonjour.
Bonjour Lucas.
Comment ça va ?
Bien, et toi ?
Ça va. Pour vous, qu'est-ce qui a changé entre les années 1980 et les années d'aujourd'hui ?
Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions, que ce soit au niveau de la raquette. À la base, le tennis découle du jeu de paume, qui jouait avec une spatule à la main. On est passé une raquette en bois avec un cordage métallique, des raquettes en titane, graphite, avec un cordage synthétique. Le terrain a beaucoup évolué aussi, les différents revêtements de terrain, les dimensions, qu'est-ce qu'il y a eu, les tenues vestimentaires, et puis toutes, les stratégies de jeu, les règles, tout a évolué en même temps. Voilà.
D'accord. Puis pour vous, c'est quoi votre joueur préféré ?
Alors on est en Suisse, Roger Federer. Pour son talent et sa qualité de jeu, à son âge, qui fait partie des plus anciens joueurs des tournois ATP, et il est toujours présent, il montre toujours son haut niveau. Voilà.
D'accord. Et ATP, ça veut dire quoi ?
C'est les tournois internationaux.
D'accord. Et autrement, pour vous, est-ce que vous faites le tennis pour de la compétition ou pour juste le plaisir ?
Alors, actuellement, je le pratique pour le plaisir. Alors, j'enseigne à Levaux. On a une belle panoplie d'enfants avec des niveaux et des âges différents. Au départ, j'étais dans la compétition. Et puis j'ai arrêté par la suite, et puis je me suis mis juste dans l'enseignement, et puis pour mon plaisir.
D'accord.
Voilà.
Et puis vu que vous avez arrêté la compétition, c'était à cause de quel problème ?
Alors c'était plus des questions d'horaire et d'organisation. Ça prend du temps, ça prend les week-ends, les tournois sont souvent le week-end, et puis... Voilà, après, il fallait s'impliquer d'une autre façon dans ce sport
j'ai décidé de pas le faire. Je me suis concentrée, je suis restée dans un sport de plaisir.
D'accord.
Comme loisir, ouais.
Du coup, vous êtes allé donner un peu la pratique aux petits, si on peut dire ça comme ça.
Oui, aux petits de Levau. Alors, on commence avec le mini-tennis, qu'ils aient déjà une notion de la balle, la distance, la raquette, la balle, voilà. Puis on peut vite voir qui est fait pour le tennis ou non.
Puis du coup, vu que moi je fais du tennis dans votre club, du coup, je suis bien impliquée ou pas?
Ah bah ouais, toi t'es un bon élève.
D'accord.
D'ailleurs, t'as vu l'année dernière, t'as passé d'un niveau super à un niveau supérieur. Je t'ai mis avec des plus grands, ce que je trouve important, comme ça ils vont te tirer en avant. Mais c'est toujours mieux d'être avec un niveau plus élevé. C'est comme ça que tu progresseras le plus rapidement.
Bah du coup, merci pour cette interview.
Moi, c'était avec un grand plaisir.
Oui, moi aussi.
Et est-ce que vous avez aimé interviewer vos coachs de foot et de tennis?
Ben, moi, franchement, j'ai beaucoup appris. Je savais rien sur les années 90 et je suis très contente d'avoir fait cette interview.
Ben, moi, sur le tennis, j'ai appris aussi que les raquettes, elles étaient en bois ou en titane, je sais plus quoi. Puis, je savais pas, et puis du coup, voilà.
D'accord. Et maintenant, on écoute
Tomber la chemise de Zebda.
Tous les enfants de ma cité, même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur, des faces de stalagmites et de jolies filles. Un homme, la famille, tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs, et tout ce que le béton a fait de meilleur, de qui voulait pas payer l'entrée 30 balles. On t'envahit la scène, on t'envahit la salle. Y'a là des bandits qui ont des têtes de cailloux, ceux qui ont du sentiment autant que les voyous, attendent qu'on allume un méchant bouquin et que surgisse de la scène des volcans. Je peux dire qu'on s'est fait plaisir.
tombera.
Salut!
Ça va?
Ouais.
Et toi?
Ouais, alors comment s'est passée votre interview?
Très bien. Il y a même une dame qui a commencé à, elle, nous faire un interview. C'était trop drôle.
Ok. Bah maintenant, je propose qu'on écoute votre interview alors.
Ouais.
Oui. Salut, c'est Tessa Léo sur Radio Cactus. Nous sommes allés à la rencontre de différentes personnes dans la rue et nous avons voulu savoir quel était leur meilleur souvenir des années 90.
La danse, la drague. C'est tout ce que je peux vous dire.
Ok, merci okay. beaucoup.
Merci de beaucoup.
Rien, au revoir.
Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous faisiez?
Bonne question. En tout cas, il n'y avait pas tous ces tablettes. Ouais. Ces tablettes. C'était... Ouais, on avait des autres choses. Pour moi, on était plus heureux que maintenant.
Alors, Pascal, pour vous, les années 90, c'est quoi?
C'est toute ma jeunesse. C'est les années disco. Les balles, pas de téléphone, pas de portable, la joie de vivre.
Ok, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Alors maintenant, on est avec Anaïs. Anaïs, pour toi, c'est quoi les années 90?
Pour moi, les années 90, c'est quand les gens faisaient tout le temps la fête, ils dansaient tout le temps, ils se bagarraient pas beaucoup, enfin, il n'y avait pas beaucoup de bastons dans les rues, comparé à aux années aujourd'hui, enfin... À ces années-là, enfin, ce que je veux dire, c'est genre 2019. Et puis, bah, du coup, bah, personnellement, j'aimerais bien vivre dans les années 90 parce que y avait, on pouvait, selon la mode qu'il y avait là-bas, on pouvait bien s'habiller, et puis on faisait tout le temps la fête. Puis voilà.
Ok, alors là, on est avec Eléa. Eléa, pour toi, c'est quoi les années 90?
Bah, pour moi, les années 90, bah, c'est genre bah, les gens, ils étaient. Comment dire, sympa, enfin, ils parlaient de plein de choses, ils étaient moins gênés qu'en 2000 et tout, voilà.
Voilà, c'est la fin, merci de nous avoir écoutés, encore un grand merci à tous les gens qui ont pris de leur temps pour répondre à nos questions. Ciao, ciao, c'était tout.
Bon, bah, j'ai une question, est-ce que vous auriez bien voulu vivre dans les années 90?
Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être sympa.
Ouais, grave.
Ok, bah maintenant on écoute Barbie Girl de Aya. À quoi?
Ciao, ciao.
Hiya, Bobby.
Hi, Ken.
You want to go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
I'm a Bobby.
getting started.
Oh, I love you, Ken.
Salut les gars, ça va?
Bien et toi?
Bien. Alors, comment s'est passée votre interview?
Très bien, très bien.
Enfin, pardon, votre chronique, si je me trompe pas.
Très, très bien.
Alors, je vous laisse parler.
Salut à tous mes petits cactus, c'est
Oscar
et Sam. On va vous parler de Michael Jackson. Michael Jackson est né le 29 août 1958 à Gary, dans l'Indiana, et est mort le 25 juin 2009 à Los Angeles, en Californie. Michael est une star de la pop.
C'est un auteur, compositeur, interprète, danseur, chorégraphe. Il apparut dans le Guinness World Record comme étant l'artiste de variété le plus couronné de tous les temps. Michael est connu pour ses titres comme Man in the Mirror, Black or White et Beat It.
Septième d'une famille de 9 enfants, il chante avec ses frères à l'âge de 6 ans et commence une carrière professionnelle à 11 ans au sein des Jackson 5, groupe formé avec ses frères aînés. Tout en restant membre du groupe jusqu'en 1984, il entame en 1971 une carrière en solo.
Cinq de ses albums, parus de son vivant, figurent parmi les plus vendus du monde. Ses albums sont Off the Wall, Thriller, Bad et History.
Merci à tous de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup les gars, et puis maintenant on écoute Baby One More Time de Britney Spears.
Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous le 28-29 mars pour écouter des artistes et plein d'autres personnes en direct sur Radio Cactus.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram Radio Cactus 1286 et on remercie la technique.
De rien.
Et maintenant, on vous dit au revoir, petit cactus.
Inside and outside, blew his house with the blue little window and a blue